Bonjour à tous les auditeurs de Neptune FM et bienvenue dans l'émission Regard sur le passé qui vous est proposée par le service patrimoine de la mairie de L'Île-Dieu. Aujourd'hui, vous retrouvez Pauline et je vais vous parler des naufrages survenus autour de l'île pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont été très nombreux, notamment en 1917, suite à la décision de l'état-major allemand de déclarer la guerre sous-marine à outrance. Je vais vous expliquer cette stratégie allemande, les contre-mesures mises en place par la France et l'Angleterre, et je vais aussi vous relater certaines des nombreuses fortunes de mer qui émaillent la fin du conflit. Les naufrages que j'ai choisi de vous raconter se déroulent en 1917 et en 1918, mais il y en a eu quelques-uns dès 1916. La Jeanne Mathilde, un dindé de l'Île-Dieu, quitte les Sables d'Olonne le 3 janvier 1917 et fait voile vers l'île lorsque l'équipage aperçoit une fumée. Elle provient d'un sous-marin émergé qui se dirige vers le dindé à la vitesse de 15 nœuds. Le sous-marin n'arbore aucun pavillon, mais il ne fait aucun doute qu'il n'est pas amical. Les rares sous-marins français sont presque tous en Méditerranée. L'équipage du sous-marin indique par geste à celui de la Jeanne Mathilde de quitter son bord et de se réfugier dans leur chaloupe, ce qu'ils font sans protester. Trois hommes du sous-marin montent alors dans le dindé et y placent des charges de dynamite. Ils prennent aussi le compas qui sera laissé au patron de la Jeanne Mathilde, Abel Moussnier, pour lui permettre de regagner la côte avec sa chaloupe et son équipage. Les pêcheurs ilés voient aussi les Allemands sortir du dindé un sac contenant a priori les provisions de bord. Et même s'ils ne l'ont pas vu, il y a de fortes chances qu'ils aient aussi fait main basse sur les papiers du navire. Cela servait aux Allemands à prouver à leur hiérarchie qu'ils ont pris ou détruit un navire. Deux autres bateaux de pêche ilés sont détruits de la même manière par le même sous-marin, en étant donc dynamité, dans les heures qui suivent. Il s'agit du Pierre le Grand et du Saint-Jacques. Cet épisode malheureux n'a fait aucun mort, notamment parce que les Allemands n'avaient pas vu le fusil, un tout simple fusil, dont le Saint-Jacques était armé. C'était une arme bien dérisoire, mais sa présence témoigne de la crainte ressentie par les marins français. Dès 1915, les quelques marins qui n'étaient pas mobilisés souhaitaient regagner la mer pour gagner leur vie et permettre aux habitants des littoraux d'avoir du poisson dans cette période de restrictions liées à la guerre. Mais ils sont tiraillés entre la nécessité de partir en mer et le manque de moyens. Manque d'hommes, qui sont partis à la guerre pour la plupart d'entre eux. Manque de charbon, qui va concerner les navires à vapeur. Et très très vite, ils sont confrontés à de nouveaux dangers contre lesquels ils sont sans défense ou presque sans défense, comme les mines et les sous-marins allemands. Par ailleurs, l'administration maritime leur demande de rapporter les observations qu'ils font en mer afin d'essayer de suivre les navires suspects. Autant vous dire que l'atmosphère est lourde. L'île est elle aussi concernée par ces difficultés et ces dangers que je viens de relater, comme en témoigne la destruction de ces trois navires de pêche que je viens de citer. Notons que comme pour ajouter l'insulte à l'injure, l'équipage allemand aurait ri devant le désarroi des marins ilais au moment où leur bateau était détruit sous leurs yeux. Prenons un peu de hauteur par rapport à cet événement et étudions la stratégie militaire allemande quant à la guerre maritime. Quand le conflit mondial s'enlise dans les tranchées, le front se stabilise dans le nord de la France. Cela signifie que notre pays est amputé d'une partie de sa production économique. Notre allié, l'Angleterre, n'a pas le même problème. Mais, étant donné qu'à ce moment-là, la guerre va devenir une sorte de course d'endurance, que c'est le pays ou les pays qui pourront tenir le plus longtemps qui vont remporter la guerre, cette baisse de la production française à cause des combats sur notre sol va se révéler un inconvénient, un handicap sur le long terme. L'Allemagne, évidemment, n'a pas le même handicap. Il n'y a pas de combat sur le sol allemand et son économie peut tourner à plein régime. Mais l'Allemagne a un problème que nous n'avons pas. Elle n'a pas ou peu de colonies et aucun secours à attendre de ce côté-là. Par contre, l'Angleterre et la France disposent de nombreuses colonies en Afrique qui vont pouvoir nous fournir des denrées et des combattants. De plus, c'est l'Angleterre qui domine les mers, et cela nous sera bien utile, car toutes ces denrées et tous ces hommes vont pouvoir venir jusqu'à nous par des navires qui vont naviguer le long des côtes françaises. L'Allemagne comprend vite que il faut arracher la maîtrise des mers à l'Angleterre et qu'il faut frapper le commerce sur les côtes atlantiques françaises. Il faut instaurer une sorte de blocus pour essayer de paralyser complètement les économies françaises et anglaises. Ainsi, dès 1916, l'Allemagne déclare les eaux territoriales françaises zones de guerre. Cela signifie que les vaisseaux allemands se réservent la possibilité de couler sans sommation tous les navires circulant dans ces eaux françaises, y compris les navires neutres, en considérant qu'ils viennent faire commerce avec leur ennemi, avec la France ou avec l'Angleterre, et que les Allemands sont donc en droit de les immobiliser, de les détruire. Une deuxième étape est franchie en février 1917, lorsque l'Allemagne déclare la guerre sous-marine à outrance. Cette décision est le fait du nouveau chef d'état-major, le maréchal Paul von Hindenburg, et de son lieutenant, Erich Ludendorff. Pour mettre l'Angleterre à genoux, l'Allemagne veut donc utiliser comme arme le sous-marin, le U-boat, comme on les appelle. Mais pourtant, en 1914, elle n'en a que 28. Ces sous-marins fonctionnent avec des moteurs au kérosène. C'est un combustible moins volatile que le fioul et le risque d'explosion lorsque le sous-marin est immergé est plus faible. Mais lorsqu'il remonte à la surface pour reprendre de l'air, ces sous-marins au kérosène émettent des grosses fumées blanches, donc ils sont faciles à repérer. Malgré ce handicap, dès 1914, ils arrivent à détruire plusieurs croiseurs anglais, pourtant lourdement armés. Et en 1915, ils vont détruire le Lusitania, un paquebot sur lequel naviguaient de nombreux civils américains. Nous reviendrons au Lusitania un petit peu plus tard. Devant l'efficacité de leurs sous-marins, le commandement allemand va décider d'intensifier la production des sous-marins. À partir de 1915 et de 1916, on va lancer les usines à fond et essayer aussi d'améliorer les nouveaux modèles de sous-marins. On va réussir à créer par exemple des moteurs au fioul qui seront moins explosifs et qui permettront à ces sous-marins d'émettre moins de fumée lorsqu'ils émergeront. On va aussi développer l'autonomie des sous-marins. Les sous-marins sont équipés de canons qui permettent de tirer lorsqu'il est en surface. Mais plus on avance dans la guerre, donc plus ils ont d'autonomie et plus leurs torpilles leur seront donc utiles pour pouvoir tirer quand ils sont sous l'eau, en diminuant le risque d'être repérés par les ennemis. Et on va aussi créer de nouvelles classes de sous-marins comme les UE, les UB, les UC qui seront chargés de poser des mines. Donc, au début de la guerre, l'Allemagne a 28 sous-marins et en tout, pendant la guerre 14-18, elle en a utilisé 375. Ils ont donc été plutôt productifs, hein. Sur ces 375, seuls 173 seront détruits pendant le conflit. Alors par ailleurs, des cargos vont aussi déposer des mines. 235 000 mines sont utilisées par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Beaucoup d'entre elles sont disposées sur les côtes atlantiques, puisque c'est l'endroit où tous les bateaux de commerce à destination des grands ports anglais et aussi d'une partie des ports français vont circuler. Et le large de l'Île-Dieu va être tout particulièrement visé par les Allemands. Encore une fois, l'Île-Dieu est placé en plein sur cette route maritime extrêmement fréquentée. Ainsi, Dans la nuit du 16 novembre 1917, le Naalso, un chalutier-patrouilleur français, sera victime d'une mine allemande au large de l'île-Dieu. La veille au soir, l'équipage fêtait les 16 ans de Henri, le jeune radio, et sont réveillés dans la nuit par une secousse brutale lorsque le vaisseau heurte une mine. La première réaction de Henri, c'est de se précipiter à son poste de TSF pour appeler du secours. Mais c'est la partie du bateau qui a été endommagée et Henri tombe à la mer sous les yeux impuissants du reste de son équipage. Fort heureusement, un des navires du convoi qu'accompagnait le Naalso va venir en aide à l'équipage presque immédiatement et arrivera même à sauver Henri qu'on retrouvera quelques heures plus tard accroché à un des débris du bateau. Funeste du Naalso et intéressons-nous à sa fonction. Un chalutier patrouilleur, c'est-à-dire un bateau de pêche de taille assez importante qui a été mis à la disposition de l'armée pour assurer la protection d'autres bateaux de pêche, de convois de cargo et également le déminage. En 1918, il y avait 800 de ces chalutiers qui étaient en usage sur nos côtes. Ces navires sont utilisés par l'armée, mais ils sont toujours occupés par leurs équipages d'origine, donc des pêcheurs. Et ils sont parfois assez sommairement équipés, on va dire. Ils ont rarement plus d'un canon, et parfois même, ils n'avaient qu'une seule mitraillette. Donc, ils étaient chargés, entre autres, d'attaquer les sous-marins avec une mitraillette. C'est pas évident. Mais on a quand même eu des beaux succès, hein. Par exemple, le Hyacinthe Yvonne, en mars 1917, c'est un bateau des Sables d'Olonne, donc un chalutier patrouilleur chargé de protéger les autres bateaux de pêche des sables. Il arrive à abattre un sous-marin allemand. Bon, le Hyacinthe Yvonne ne va pas survivre à la destruction du sous-marin, mais l'équipage a été sauvé par un autre bateau des Sables, donc c'est un succès. À l'île-Dieu, nous avions aussi notre chalutier patrouilleur, il s'agissait de la Constance, qui était un dindé dont le quartier-maître était Frédéric Bernard, un personnage que nous retrouverons tout à l'heure. Malgré cet équipement sommaire, les chalutiers-patrouilleurs rendront de nombreux services. Donc on a parlé de la destruction de sous-marins, ils accompagnent donc les convois, et ils sont aussi chargés du déminage, ce qui n'est pas un travail facile, puisque certaines des mines de la Seconde Guerre mondiale explosent au contact du métal. Donc il fallait savoir s'y prendre avec beaucoup de précautions. Leur armement s'améliore aussi à la fin de la guerre, puisque bien souvent, ils seront à ce moment-là équipés d'un poste de TSF et même de systèmes d'écoute anti-sous-marins. Contre-mesure mise en place par les Alliés pour tenter de réduire l'impact des attaques allemandes sur le commerce sur la côte atlantique française, c'est constituer des convois de cargo. Alors, ça peut sembler une évidence absolue que, vu que les sous-marins allemands sont seuls, si on rassemble des cargos et qu'on les arme sommairement avec une petite mitraillette, qu'on les confie à deux ou trois chalutiers patrouilleurs, eh bien on va limiter la casse, la perte. Et c'est vrai, ça va décourager certaines attaques de sous-marins. Mais il y a un autre problème, c'est que les navires dont on parle, ce sont parfois de très gros cargos, plusieurs centaines de mètres, et il y a une centaine d'années, ils n'ont pas les moyens de navigation dont on dispose de nos jours. Donc pour eux, naviguer à touche-touche, la nuit aussi, ça peut être extrêmement dangereux. Donc ils avancent tout doucement quand ils sont en convoi. Donc ça n'est pas une solution si efficace et si évidente que cela. D'ailleurs, les convois ne deviendront obligatoires qu'à partir de mai 1917. Alors pourquoi cette date ? La guerre sous-marine à outrance a été déclarée en février, hein, quelques mois plus tôt, et les attaques allemandes vont vraiment s'intensifier à partir de ce moment-là. Devant cette situation, les armateurs et les autorités maritimes, notamment anglaises, vont décider que malgré leur manque d'efficacité, les convois, c'est encore le moyen le plus sûr d'arriver à conserver au moins un tout petit peu de commerce afin d'avoir accès aux denrées dont il était, qui étaient indispensables pour mener cette guerre à bien, autant en Angleterre qu'en France. Malheureusement, naviguer en convoi, ce n'est pas la garantie de la sécurité, comme le prouve le destin du Carriado. Le Carriado, c'est un autre chalutier patrouilleur qui accompagnait, dans la nuit du 2 mai 1917, un convoi au large de l'île Dieu. C'était un tout petit convoi composé de 4 anciens bateaux de pêche qui avaient été reconvertis pour faire du transport de marchandises pendant la guerre. Ce petit convoi est repéré par un U-boat allemand, probablement le UC-72. Ce U-boat va torpiller le Carriado. Seul un seul membre d'équipage parviendra à survivre à la destruction de son navire. Arraisonnés l'un après l'autre, les 4 navires du convoi. Un petit peu comme lors de l'épisode de la Jeanne-Mathilde que je vous ai relaté plus tôt. Ils vont donc, l'équipage de ce U-boat, monter à bord de ces 4 bateaux, demander aux équipages français de les quitter et de monter dans les chaloupes. Donc ils vont pas les tuer, ils vont les laisser partir. Mais ils vont prendre tout ce qui les intéressait à bord. Par exemple, le matériel de navigation, des papiers, encore une fois, des bateaux. Et ensuite poser de la dynamite ou des bombes pour les détruire. C'est ainsi que la Russie, la Victoire, l'Yvonne et le Cancalais sont coulés auprès du Carriado à 12 000 au large de l'île Dieu. Nous évoquions tout à l'heure les combattants fournis par les colonies d'Afrique, que l'on appelait les tirailleurs sénégalais, même s'ils provenaient en fait de différentes régions de l'Afrique noire. 400 d'entre eux naviguaient au large de l'île Dieu le 8 juin 1917. Ils étaient à bord du Sequana, où ils n'étaient pas seuls, puisqu'il y avait aussi une centaine d'hommes d'équipage et également des passagers. En pleine nuit, vers 3 heures du matin, le Sequana est torpillé par un sous-marin allemand. Le commandant du Sequana avait organisé les jours précédents des exercices d'évacuation. Aussi, les passagers ont-ils quitté le navire dans un calme assez relatif, malgré le décès d'une petite fille qui est tombée à l'eau au moment où on a essayé de la faire monter dans la chaloupe. Mais par contre, les tirailleurs sénégalais ne parlent pas français, ils ne parlent qu'un dialecte africain, le Mossi, et ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Pourquoi doit-on évacuer? Le signal d'évacuation n'a pas été donné, il était tombé en panne. Perdus, probablement terrifiés, certains d'entre eux grimpent dans la mâture, d'autres cherchent à se cacher dans les cabines, et c'est seulement à la toute fin qu'ils comprennent qu'il faut absolument quitter ce vaisseau en perdition. Un peu plus de 200 d'entre eux, donc un peu plus de la moitié, réussissent à monter sur des embarcations de fortune et à gagner la terre ferme. Tous ces événements démontrent que la guerre sous-marine à outrance, décidée par l'Allemagne au début de l'année 1917, a porté ses fruits. Un chiffre très parlant. Durant toute la guerre, on estime que l'armée allemande est responsable de la destruction de 6000 navires. 6000 navires, c'est le quart de la flotte mondiale de l'époque. Et sur ces 6000 navires, il n'y en a qu'une centaine qui étaient des vaisseaux de guerre. Tout le reste, ce sont des navires de commerce. C'est vous dire à quel point cette stratégie a été payante. Et pourtant, elle va mettre l'Allemagne dans une position diplomatique très inconfortable. En effet, les États-Unis d'Amérique étaient un pays neutre. Mais ils commerçaient énormément avec la France et surtout avec l'Angleterre. Aussi, lorsqu'au début de l'année 1917, l'ambassadeur d'Allemagne leur déclare que tout vaisseau neutre soupçonné de commercer avec l'ennemi sera coulé sans sommation, les Américains apprécient assez peu la menace. Et ce d'autant plus que lorsque le Lusitania a été coulé en 1915, il y avait de nombreux civils américains à bord et que les États-Unis avaient très, très, très mal vécu cet événement. C'est donc la déclaration de la guerre sous-marine à outrance qui va décider les Américains à entrer en guerre aux côtés des Alliés le 6 avril 1917. Il faudra des mois pour que les Américains arrivent sur place. Ils ne seront présents qu'au début de l'année 1918. Mais ils viennent en force, avec de nombreux destroyers, avec des avions, et avec, bien sûr, de nombreux soldats qui vont permettre de donner aux Alliés un second souffle et de finalement remporter la Première Guerre mondiale. La présence de ces destroyers américains va permettre de sécuriser les mers pour les Alliés. De plus en plus d'avions vont pouvoir s'y aventurer et permettront de détruire un certain nombre de sous-marins. Les convois circulent de manière plus sécurisée. Mais pourtant, ça ne signifie pas la fin des naufrages sur les côtes de notre île. Ainsi, le 3 décembre 1918, un convoi affrété par l'armée américaine circule au large de l'île Dieu lorsqu'il est touché par une violente tempête. L'un des cargos du convoi, le Jinsen Maru, un cargo japonais, va alors être victime d'une avarie. Il va alors s'échouer sur la pointe de la tranche. Et nous savons tous que ce n'est pas le meilleur endroit pour s'échouer. La tempête est si violente que les sauveteurs en mer renoncent à arriver jusqu'au Jinsen pour sauver son équipage. Ils auraient tous péri si Frédéric Bernard, dont nous avons déjà parlé, n'avait pas décidé d'intervenir. En perdition depuis la pointe de la tranche et à tendre un filin qui fera office de va-et-vient entre le bateau et la côte. À bord, il trouve l'équipage complètement tétanisé. Pourtant, les marins du Jinsen Maru sont des marins aguerris, mais ils étaient probablement terrifiés à l'idée d'exploser avec leur cargaison puisqu'ils transportaient 800 tonnes de munitions, entre autres, à destination de l'armée américaine. Bien qu'il ne parle effectivement pas le japonais, Frédéric va parvenir à les rassurer et à les faire tous évacuer. Il quittera le navire en dernier, juste après le commandant du Jinsen Maru. 57 hommes sont ainsi sauvés par Frédéric Bernard et il recevra une distinction de l'armée américaine pour cet acte de courage. D'ailleurs, le capitaine japonais n'avait pas attendu les Américains. En reconnaissance, il lui avait offert une partie du mobilier du Jinsen Maru et d'autres membres d'équipage ont ainsi fait des cadeaux à d'autres îlets qui les avaient secourus. Un peu plus tard, la cargaison sera récupérée par l'armée américaine. Mais elle finira par exploser dans le hangar où on l'avait stocké à Port-Joinville. On renoncera à prendre ce qui restait dans le navire. Avant de vous quitter, je voudrais tout de même remercier l'association Ange pour ses ouvrages sur les naufrages autour de l'île Dieu durant les deux conflits mondiaux. Leur tome 1 sur la Première Guerre mondiale est une de mes sources pour cette émission. Les plus curieux d'entre vous y trouveront de nombreux récits que j'ai laissés de côté. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la vie illaise durant cette guerre, vous pouvez aussi consulter le livre de Jean-François Henry sur le sujet. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles émissions. Au revoir.